Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes du 99.1 sur l'agglomération rouennaise, 102.4 à Évreux. Et puis pardon pour les habitants de Breteuil et Conches-en-Ouche, j'ai oublié, c'est la rentrée, la fréquence de nos chers amis et collègues de Principe Actif. Aujourd'hui, nous avons comme invités des bénévoles. On dit comme ça, bénévoles ?
Oui, on dit comme ça, oui.
On reçoit les bénévoles de SOS Homophobie. Avec elles, on va parcourir à la fois les actions de l'association, tout ce que vous pouvez mettre en place. On va aussi s'attarder sur quelques termes, puisqu'on parle d'homophobie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut pas dire ? Pourquoi on le dit ? Pourquoi on ne le dit pas ? Vous aurez chacune vos spécialités. Et puis, ben, en attendant, on va démarrer en musique.
Oui, exactement, bonjour.
Cher Nicolas aussi, à la technique, qui nous accompagne. On démarre un peu sur les chapeaux de roue,
oui,
là, ce
tout à
soir.
Fait,
mais c'est lundi gris, mais on a l'arc-en-ciel des LGBT+.
Exactement, et en plus, on a le titre « Boa » de Weinicht, tout de suite sur les ondes du mix des cultures.
C'est mon traquenard qui guide tes pas. Paye ta matière, j'en veux vraiment cher. Je suis un big data, un putain de bluffeur. Je te pète la carapace, je me délègue de tes chairs. Tu porteras des cornes, je suis autour de toi la laitière. Fais péter le corsage que j'organise ton univers. Je te sonne la canne de brume, on reprend tout à l'enjeu. Je siffle, je suis en boa. Je t'étouffe, je suis en boa. Plus grand et beau, bien plus puissant que ton pauvre cerveau. Alors mon chou, libère-toi de tes idées arriérées, sinon sache que je serai là.
Je te siffle, je suis en boa. Je t'étouffe, je suis en boa. Je te siffle, je suis en boa.
Weinicht avec le titre Boa sur les ondes du mix des cultures.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM. Nous sommes donc avec les bénévoles d'SOS Homophobie. Autour de la table aujourd'hui, donc, nous recevons Clémentine.
Bonjour, bonsoir.
Stéphanie.
Bonjour.
Et Juliette.
Bonjour.
Alors, mesdames, vous allez vous présenter. Clémentine s'est désignée volontaire pour commencer.
Oui, donc voilà, Clémentine, donc je suis une femme transgenre. J'ai commencé mon parcours il y a 3 ans. Là, je suis sous hormones depuis 2 ans et demi. Et bientôt sur l'opération, la vaginoplastie.
Donc là, c'est votre présentation personnelle et votre place, votre implication au sein d'SOS Homophobie.
Alors, je suis membre de la délégation Normandie et avec Stéphanie, on fait partie de la commission trans en national.
Du coup, ça consiste en quoi, cette participation? Alors, à la commission nationale,
lorsqu'il y a des problématiques... alors, tu me corriges si je me trompe, Stéphanie. Hein. Mmh. Lorsqu'il y a des problématiques sur les questions de transidentité, sur les parcours, sur certaines agressions envers les personnes transgenres, parce qu'on ne traite, entre guillemets, on ne traitera pas une personne transgenre comme une personne homosexuelle. Le rapport, quand on voit une personne transgenre en début de parcours, on ne sait pas si on va dire il ou elle. Donc tout ça, c'est un travail en national.
Oui, et puis aussi sur les personnes intersexes qu'on représente aussi par la commission trans. Et puis on va aussi agir, par exemple, à faire des conventions avec les clubs de sport, etc., pour savoir comment inclure les personnes transgenres, justement, par rapport à ceux qui font du sport, aux compétitions, etc. Voilà, ils s'occupent un petit peu de toutes ces problématiques-là, en fait.
Voilà. D'accord. Donc là, de toute façon, après, on va revenir précisément sur les termes, chères auditrices et chers auditeurs, puisque... il y a un vocabulaire, un lexique particulier, et c'est quand même assez complexe. Quand on a préparé l'émission, on a parlé de tout ça. C'est pas toujours évident de s'y retrouver.
Même nous, parfois, on s'y perd.
Mais oui, c'est ça.
Il faut l'avouer, entre le LGBTQI, enfin LGBT+. Et oui.
Là, il y a un jargon qui est parfois difficile à comprendre. Ensuite, Juliette ou Stéphanie?
Stéphanie.
Moi, je suis Stéphanie. Voilà, j'ai 40 ans. Je suis une femme transgenre aussi. Je vis en couple depuis 15 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui va très bien. Voilà. Et je suis militante chez SOS Homophobie aussi depuis un an, un peu moins d'un an. Et je m'occupe particulièrement de la question trans en règle générale. Voilà. Donc en ce moment, par exemple, je prépare l'été d'or, donc la journée du souvenir trans, qui est une commémoration pour les personnes trans assassinées à travers le monde. C'est une journée internationale. Je suis en train de préparer pour qu'elle soit célébrée à Rouen. Donc
C'est du travail.
Oui.
C'est beaucoup de travail pour l'avoir fait une fois. J'admire ce qu'elle fait.
Bien. On reviendra en fin d'émission sur les différents événements et l'actualité.
Donc moi, je me présente. Je m'appelle Juliette. J'ai 21 ans, je suis étudiante, donc c'est bien, il y a plusieurs tranches d'âge en fait au sein de SOS Homophobie. Donc moi aussi je suis militante active à SOS Homophobie, donc moi je m'occupe un peu plus, pas l'événementiel, mais quand on se retrouve par exemple dans des endroits comme on n'a pas encore le local à Rouen pour la délégation Normandie. Je m'occupais des rencontres par exemple dans un bar qu'on avait fait déjà à la Taverne de Thor ou à la suite de la Pride. Donc voilà, puis pour le forum des associations aussi, etc.
D'accord, donc à ce jour, vous n'avez pas de locaux?
Non.
Non, on y travaille. C'est en cours de se faire, mais c'est pas toujours évident de pouvoir avoir un local adapté pour... pour pouvoir
nous recevoir.
Les personnes qui en auraient besoin. Voilà.
Pour des raisons de discrétion,
parce que les gens qui viennent nous voir, ils ont des problèmes. Ça peut être une agression, ça peut être un mal-être en eux. Donc c'est vrai, se retrouver tous ensemble, c'est bien sympa. Mais parfois, on a envie de parler à une personne en particulier. Mm-hmm. Donc c'est bien de pouvoir s'isoler et puis pouvoir discuter en tête à tête.
Alors justement, SOS Homophobie, moi j'ai le prospectus sous les yeux, donc c'est l'association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien?
Donc on a plusieurs actions en fait, on a plusieurs, comme les filles ont parlé tout à l'heure, elles font partie de la commission transgenre.
Intersexe,
oui. Intersexe, etc. Et en fait, il y a plusieurs d'autres commissions. On a
lesbophobie,
lesbophobie, etc.
Gay, phobie, biphobie, voilà. Communication, enfin, il y a IMS aussi.
Voilà, les
on en reparlera tout à l'heure.
Il y a beaucoup de... de commissions.
C'est très sectorisé, mais on reparlera après, c'est ça, parce que tout le monde a des étiquettes, chacun dans son coin. Est-ce que vous êtes solidaire ou est-ce que chacun va défendre son...
Non, niveau des actions et des missions, c'est plutôt très solidaire, parce que la première mission d'SOS Homophobie, bah, c'est de soutenir les victimes d'agressions LGBT. Donc il y a une ligne d'écoute donc, qu'on peut appeler à tout, enfin, assez souvent. J'ai plus les horaires en tête.
Donc la ligne d'écoute anonyme, bien sûr, c'est ça, hein, c'est
totalement.
Le 01 48 06 42 41. 01 48 06 42 41. Donc là, ça, c'est un numéro que n'importe qui peut appeler.
Oui, bien sûr.
Qui.
Et au bout du fil, si moi demain j'appelle, j'ai un souci, sur qui je vais tomber ?
Sur un bénévole, en fait.
Qui sera formé, justement, voilà. Pour l'écoute.
Et qui se trouve actuellement à Paris.
Et donc, vous pouvez recevoir n'importe quel type de demande, de récit.
Bien sûr.
Bah, toute personne qui aurait été victime d'une agression verbale, qui serait victime de harcèlement, que ce soit au travail,
en famille,
voilà. Et puis qui aurait besoin déjà de parler et de pouvoir essayer de trouver des solutions aussi. Puis pour les victimes d'agression, au sens propre du terme, il y a la ligne d'écoute qui peut ensuite renvoyer sur l'assistance juridique, qui va là aiguiller les personnes pour pouvoir porter plainte, pouvoir les assister dans leur démarche, pour que leur plainte aboutisse et tout, etc. Quoi. Il y a des avocats qui sont bénévoles aussi pour aider dans ce sens-là, quoi, en fait. Voilà. Et l'association peut aussi se porter partie civile, c'est bien souvent ce qu'elle fait dans le cadre d'une agression, pour soutenir la plainte déposée. Voilà, auprès du tribunal.
D'accord. Donc comme ça, déjà, c'est un des premiers axes. Et parce que là, on en parlait en préparant et hors antenne. Ce qui a été constaté, là, moi, j'ai sous les yeux le rapport sur l'homophobie 2019, qui est assez effarant, puisqu'il y a eu une augmentation très importante des agressions envers toutes les personnes.
C'était déjà le cas en 2018. Ça augmente.
Ça continue d'augmenter. Mais,
voilà. Disons que le pic a été en 2013.
À la suite du vote pour le mariage pour tous.
Voilà, donc le pic après est redescendu jusqu'en 2015. Et là, malheureusement, il remonte. Et là, il faut que ça cesse.
Généralement, les pics d'agression sont toujours reliés à ce qui se passe en fait en politique. Voilà, l'actualité et ce qui est actuellement voté. Donc actuellement, c'est la PMA, donc la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, donc lesbiennes et femmes célibataires. Et on retrouve ce pic, du coup, en 2013, avec la vote du mariage pour tous.
J'ai juste une petite question. Alors, est-ce qu'on peut aussi entrevoir le fait que, justement, ces pics, malheureusement, d'agression sont aussi le fait que, justement, les gens qui sont victimes aussi, malheureusement, de ces agressions, eh bien, se portent plainte aussi, plus qu'avant.
Il y a une parole qui s'est libérée du fait que c'est vrai que ça fait pas mal d'années que les associations œuvrent justement à ce que les gens puissent plus facilement parler des discriminations qu'elles subissent, etc.
La peur de pousser la porte d'un commissariat ou de la gendarmerie.
C'est ça. Là, peut-être pour les personnes qui écoutent et qui auraient besoin de soutien ou qui n'oseraient pas aller porter plainte, comment ça se passe ? Parce que nous, on en a discuté hors antenne. Concrètement, si déjà l'agression, ça peut être quel type d'agression ? À partir de quel moment ?
Je vais te laisser la parole parce que c'est... Voilà.
Mais à partir de quand on porte plainte ?
À savoir que sur Rouen et Elbeuf, au commissariat, on a le commandant Dumont qui est le référent LGBT. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur justement de pousser cette porte. Il y a une personne qui est formée, SOS Homophobie, on est en contact avec lui. Donc à chaque agression, si nous on n'y va pas, c'est lui qui va nous contacter.
Oui. Alors, à quel moment on porte plainte ? Alors, il faut savoir que l'insulte, déjà, est déjà répréhensible par la loi, que ce soit pour n'importe qui, d'ailleurs, hein, pas forcément que pour les personnes LGBT.
De discrimination.
Voilà. Et à partir du moment où l'insulte est reconnue à caractère LGBT-phobe, c'est comme pour le racisme, c'est une circonstance aggravante. Donc, il y a des peines... il y a des amendes et même aussi des peines de prison prévues pour voilà, à partir du moment où déjà il y a une insulte, un harcèlement qui est fait, puisque c'est déjà interdit par la loi à la base, donc du coup c'est voilà, le caractère LGBTphobe est une circonstance aggravante. Donc j'ai plus exactement les textes de loi en tête, mais ça peut aller jusqu'à des très grosses amendes si vraiment...
C'est pas 60... Alors,
pour les récidivistes,
ouais, et puis, oui, 75 000, voilà. 50 prisons ou 3 ou 5 ans.
Oui, selon si l'insulte est publique, voilà, etc. Il y a, voilà. On regrette un peu que parfois la loi ne soit pas toujours appliquée comme elle devrait, parce que ça dissuade peut-être pas assez. Mais voilà, donc on peut déjà porter plainte à partir du moment où on se fait insulter ou à partir du moment où on est harcelé d'une manière ou d'une autre. Et puis bien sûr, les agressions physiques l'agression physique après, hein, qui devient voilà. À savoir que les LGBTphobies, ça va aussi jusqu'au meurtre, quoi. Voilà.
C'est ça, oui, ça va du harcèlement à l'agression.
Alors, j'en ai tellement que j'ai plus tout. Il y a un jeune homme qui est mort des suites de ses blessures, parce qu'il a été agressé au couteau chez lui. Donc, le caractère homophobe de l'agression a été reconnu. Et voilà, il faut bien savoir que ça va jusqu'au meurtre et que c'est, voilà, c'est intolérable pour tout le monde, quoi. Mmh. Voilà.
Alors juste avant de faire une pause musicale, donc si on est agressé, ne serait-ce que verbalement, on peut aller pousser la porte du commissariat. En tout cas, vous garantissez qu'au commissariat Bézout-Barneville de Rouen et à Évreux,
et Elbeuf,
pardon, il y a quelqu'un qui est référent.
Le commandant Dumont.
Le commandant Dumont est référent. Donc ça, c'était suite à une, je ne sais pas comment on dit, une prérogative d'État qui demandait, oui, à ce qu'il y ait un référent LGBT,
voilà,
dans chaque commissariat.
Et SOS Homophobie, nos délégués, co-délégués, justement, travaillent sur ça pour que dans, on va dire, on espère, toutes les gendarmeries et tous les commissariats de police, il y ait au moins un référent. On a du travail, mais...
Mais vous êtes là en tout cas pour accompagner, pour soutenir. Et aussi, vous pouvez soutenir financièrement grâce à la partie. Vous avez un petit fonds éventuellement pour.
Oui,
il y a
une sorte d'aide juridictionnelle pour les personnes qui auraient éventuellement du mal à payer leurs frais d'avocat ou quoi que ce soit. Parce que bon, bah.
Si on ne prend pas l'avocat d'office.
Eh bah, bien, l'aide juridictionnelle ne fonctionne pas. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Donc du coup, voilà, il y a la possibilité d'avoir une aide juridictionnelle en plus par SOS Homophobie qui va pouvoir aider les personnes les plus démunies à pouvoir porter plainte aussi et à payer leurs frais d'avocat. Parce que quand on est victime, on doit d'abord payer ses frais d'avocat en vue peut-être de se les faire rembourser une fois la condamnation faite.
Mais vous apportez aussi un soutien dans ce sens-là pour ne pas freiner les personnes dans leur besoin d'aller porter plainte et de dénoncer.
Surtout pas freiner.
Bien. Petite pause musicale.
Exactement, on va s'écouter une petite reprise qui est bien intitulée Le Mia, et on découvrira qui l'a interprétée juste après cette chanson.
Merci beaucoup.
J'ai fada, je crème des gaines. Je vous crois tous ici, M par
M. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Sam Smith au pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, le trois quarts en cuir roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes, les mocassins nébulonis. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS, Bandana Glishan ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille.
Je danse le Mia.
Baby, tu mets d'autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier à fond pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Une bagarre au feu et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renaudous sur le parking. À l'intérieur, oh, elle c'était moins rose. Oh, cousine, tu danses, je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure. Le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger, on se réveillait à la danse.
se lindisait. Fils, y'a aucune chance.
Ouais, sorry les filles, mes chaussures brillent. Hop, un tour je vrille. Je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le Mia.
Comme les voitures, c'était le défi KUX73JM. Sans vraiment petit.
Du grand voyou à la plus grosse mauviette. La main sur le volant avec la moquette. Par soleil, pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la douce sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la stack et LH. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek Coco, la coupe à la main, les Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Jo. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille.
Je danse le Mia.
Hey, DJ, mets d'autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier à fond pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes longs, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Ah oui, Mino! La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient, les différences effacées et les rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait rentrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était des ragots, des jaloux, et quoi qu'on en dise, nous, on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire.
Aïe, 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 aïe,
je danse le Mia.
Et DJ, mets d'autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier à fond pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Et toi, tu danses le Mia pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Et DJ, mets d'autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
Reprise édulcorée du Mia, normalement interprétée par Ayam, bien évidemment, et ici interprétée par Corinne. On retrouve Awa et SOS Homophobie dans quelques instants, juste après ces bandes annonces.
L'esprit de l'escalier, tous les mardis de 19h à 20h sur le 99.1 FM ou www.radiohdr.net. Toute l'actualité lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, animée par Gilles, Fred, Diana et Johan, en musique et en bonne humeur. L'esprit de l'escalier, c'est tous les mardis sur le 99.1 de la bande FM ou www.radiohdr.net.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches sur HDR, voyagez dans l'univers des musiques imaginogènes.
Vous écoutez en ce moment La Voix du Futur.
En l'espace de 60 minutes, Solenoid vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois ?
Musique nomade et bandes sons imaginaires vous attendent tous les dimanches dès 22h sur Radio HDR 99.1 et sur radiohdr.com.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Bienvenue de retour dans le Blabla Mix. Il est 17h24 et autour de la table, nous sommes avec les militantes d'SOS Homophobie, Clémentine, Stéphanie et Juliette. Dans cette première partie, on a commencé à parler des actions de l'association qui était dans un premier temps soutenir, donc soutenir en cas d'agression homophobe, hein, on dit ça comme ça. Il y a un autre axe très important de vos actions.
La prévention.
La prévention, effectivement. Alors, qui nous parle de la prévention ? Comment vous faites de la prévention ?
Je te sens bien, Stéphanie. Vas-y, parle-nous des IMS.
Alors, pour la prévention, on essaie de prévenir justement ces agressions, ces discriminations, ces harcèlements hein, qui peuvent aussi avoir lieu à l'école, justement. C'est là où, en général, ça commence. Donc on fait des interventions en milieu scolaire, où on va dans les collèges et lycées à partir de la quatrième, et où on va essayer de sensibiliser, de dédiaboliser, hein, parce que c'est aussi un peu ça, justement, bah, le fait des personnes LGBT, quoi, voilà, en essayant d'expliquer que...
qu'on est comme eux.
Que oui, voilà, c'est voilà, être homo... Alors moi, j'aime... après, c'est mon point de vue, ça se
défend. On va avoir des problèmes de termes, là, ça y est.
Voilà.
Vas-y, on va se battre.
J'aime pas trop utiliser les termes homosexuel ou bisexuel parce que je trouve que ça renvoie bah, quelque part un peu trop à la sexualité. Mm-hmm. Je préfère utiliser les termes homosentimental ou bisentimental. Alors je sais que c'est pas officiel, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est très réducteur de rapporter une histoire d'amour, une vie de couple, hein, comme ça peut être dans une relation hétérosexuelle, à une relation sexuelle, justement. Voilà. Donc c'est vrai que il y a avant le sexe, il y a des sentiments, il y a un partage, il y a un couple, il y a tout ça. Donc on essaie bah, de prévenir bah, les ados qui sont moins informés peut-être de par leur dans leur famille, etc. Pour dédiaboliser un peu ça ou leur faire comprendre bah, que c'est une relation comme une autre et puis que il n'y a pas lieu à ce que ça donne à des que ça donne lieu pardon à des discriminations ou à embêter les gens quoi voilà.
Alors est-ce que c'est pas complexe d'arriver dans les établissements qui fait appel à vous parce que déjà il y a un grand nombre de personnes qui est contre l'éducation sexuelle quelle qu'elle soit dans les établissements scolaires. Alors si en plus
ce sont les chefs d'établissement,
ça les collèges, les lycées voilà. Qui nous appellent.
Ça peut être les chefs d'établissement, ça les infirmières scolaires
qui aussi. Demandent par l'intermédiaire ouais soit
c'est un petit peu tout hein, les profs, les élèves effectivement. Ouais.
Mais voilà. Ce qui est important aussi dans les interventions milieu scolaire, c'est qu'on va pas aller contrer en fait l'opinion de l'enfant, enfin l'enfant de l'adolescent. On va pas en fait le bloquer, lui dire non, tu as tort. C'est pas comme ça qu'il faut, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut penser. On va essayer juste lui faire comprendre, vraiment en douceur. Parce que souvent, à cet âge-là, c'est l'opinion des parents qui prime, plutôt que le sien.
C'est l'effet miroir.
C'est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les parents vont être homophobes. Du coup, l'enfant, qui moins à 13-14 ans, lui-même va être homophobe sans vraiment savoir en quoi ça consiste et pourquoi, en fait, il l'est.
Vous êtes intervenu, vous, déjà, dans les établissements ?
Alors, moi, j'ai fait une intervention sur Lisieux, mais en tant que... Je vais dire, j'étais entre guillemets spectatrice, parce que je ne suis pas encore formée justement pour ces IMS. Mais,
intervention en milieu scolaire, IMS.
Tout à fait, excusez-moi. Mais j'ai trouvé ça le rapport entre les élèves au début qui regardaient parfois interrogateurs, parfois on a eu des regards. Je me souviens d'un élève qui n'arrêtait pas de nous fixer assez méchamment. Et à la fin, il est venu discuter tranquillement. Effectivement, comme disait Juliette, on ne cherche pas à dire ce que tu dis, ce que tu penses, t'as tort. C'est pas... on l'écoute déjà pourquoi il pense comme ça, et puis après on lui explique que non, c'est pas...
C'est pas un point de vue qui se défend, voilà. Parce que, bah, c'est, je veux dire, on pourrait rapporter les LGBT-phobies au racisme ou... Voilà, ou à d'autres discriminations, l'antisémitisme et oui. Tout ça. D'ailleurs, on travaille avec la DILCRA, hein, qui lutte contre toutes les formes de discrimination. On ne peut pas se permettre, en tant que personne, d'en juger une autre, finalement. Voilà, c'est... on a le droit d'avoir son avis, on n'est pas forcément obligé de l'exprimer. Surtout quand, ça donne lieu à de la discrimination et tout ça, quoi. C'est... voilà. Après, on a le droit de ne pas être d'accord, donc quelque part, oui, c'est vrai qu'on ne va pas dire à l'élève, bah, t'as tort, puisque, surtout avec les jeunes, c'est un peu délicat. Donc, on va essayer de l'amener à une réflexion, justement, sur ce sujet-là, qui portera ses fruits ou pas, mais déjà d'essayer d'amener à une réflexion, en fait. Mmh.
Juliette, on a parlé d'une chose, parce que samedi dernier, vous étiez donc au forum des associations de la ville de Rouen. Vous aviez un stand entre l'UNICEF et le club de tennis de la ville. Donc vous aviez votre place.
On était filé.
Vous aviez mis un filet. Et donc, il y a des personnes qui sont venues vous voir. On avait parlé de ça. Et donc là, rentrons dans le vif du sujet. Parce que l'homophobie, c'est à la fois effectivement un manque de connaissances, des a priori, des clichés aussi sur une sexualité dépravée ou des individus qui seraient que tournés vers le sexe. Donc là, on est sur les stéréotypes. Mm-hmm. Mais c'est quand même ça qui est extrêmement véhiculé. Alors quand en plus on est transgenre, là, vous cumulez tous les stéréotypes. Mais ça, on pourra en parler après.
Imaginez transgenre et lesbienne.
transgenre et lesbienne, et un homme qui choisit de se convertir en femme, là, bon, bah, il manque plus que vous soyez noir ou arabe, et puis vous êtes complètement masochiste, quoi.
Ah, c'est ça.
Voilà. Mais du coup, Juliette avait des remarques intéressantes, parce qu'il y avait des jeunes femmes, c'est ça, hein, qui étaient venues vous voir.
Bah, en fait, c'est des jeunes femmes qui avaient près de 17-18 ans, donc ils faisaient partie d'une association. Donc, je dirais pas laquelle, hein, parce que voilà. Et en fait, ces trois filles-là sont venues et directement sur notre stand, on se dit, mais c'est quoi l'homophobie au juste ? Genre, c'est quoi en fait ? Et il y en a une qui dit, moi par exemple, j'aime pas les femmes, mais est-ce que du coup ça fait de moi une homophobe ? Je dis, bah non, c'est chacun son choix, enfin pas son choix, parce qu'on ne choisit pas, mais chacun son orientation. Et tu es comme ça, t'es hétéro, moi je suis lesbienne, c'est pas. Enfin, c'est pas grave, je veux dire, tu vas pas être homophobe juste parce que tu n'aimes pas les femmes. Et du coup, c'était plein de petites questions comme ça. Il y en avait une autre qui m'a demandé, mais est-ce que ne pas vouloir d'enfants homosexuels, ça fait de moi une personne homophobe ? Alors du coup, c'est là où on se retrouve un peu bête et on dit, bah oui, enfin, c'est quand même un peu homophobe. Ça veut dire que tu veux quelque chose pour ton enfant, alors qu'on choisit pas en fait son enfant, qu'est-ce qu'il sera, et tu veux le bloquer sur son avenir au final. Sur ce qu'il veut être et ce qu'il va être. Voilà.
Et ce blocage-là peut aller jusqu'au suicide.
Exactement.
De la personne, le rejet, voilà, des parents, ça peut aller jusqu'au suicide de la personne.
Donc là, voilà, on en arrive maintenant dans le vif du sujet. Et les raisons pour lesquelles vous militez, c'est que vous-même, vous êtes. Vous vivez depuis je ne sais pas combien d'années tourmenté ou pas. Bon, avec Stéphanie, on a discuté davantage. Vous, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais effectivement, c'est pas encore évident aujourd'hui de pouvoir être qui l'on a envie d'être, peu importe la sexualité. Je crois que là, c'est le moment maintenant de parler. Il y a l'identité d'un individu, qu'il soit mâle ou femelle, et l'identité sexuelle, qui sont des choses complètement différentes.
L'orientation sexuelle et le genre, ce sont...
Donc, en fait, il y a la notion de genre et l'orientation sexuelle. Donc, c'est des choses qui sont... pas vraiment ensemble, puisque on peut avoir un problème d'identité de genre, ça n'influe en rien sur la sexualité. En fait, on peut être homosexuel en tant que femme ou comme transgenre, comme on peut être hétérosexuel aussi. Voilà. Donc du coup, quelque part, c'est vraiment pas lié, puisque...
Disons, on peut être une personne cisgenre. Donc, une personne cisgenre, c'est une personne qui est née dans le bon sexe, comme je pense vous.
Faisons un peu de lexique et de vocabulaire. Donc, on dit cisgenre pour quelqu'un
qui est bien assigné à la
naissance. Qui naît avec les attributs sexuels, génitaux, féminins, mm-hmm. et qui se vit femme.
C'est ça. Et transgenre, c'est une personne qui est mal assignée, comme nous. On nous a assigné, pour mon cas, garçon à la naissance, mais non. Le médecin a beau faire je ne sais combien d'années d'études, mais il s'est trompé. Je suis une femme, donc voilà, cisgenre, transgenre. Et chez les cisgenres, il y a des personnes hétéro, lesbiennes, gays, bi. Et chez les personnes transgenres, c'est pareil. Donc pour ça, l'orientation de genre et de sexe, ce sont deux choses totalement qu'on trouve des deux côtés.
Voilà, pour l'identité de genre, en tout cas, c'est pareil. C'est pas un choix qu'on fait. Hein, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors, on m'a souvent demandé, mais comment ça se fait ? Je crois que si j'avais la réponse, j'aurais un prix Nobel. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est comme ça. C'est en nous, en fait, finalement. Alors, ça peut venir aussi de certains codes sociétaires, hein, puisque l'homme est comme ça, la femme est comme ça. La société nous impose une espèce de didacte un petit peu... de stéréotypes, quelque part, qui fait qu'on peut aussi se sentir mal dans l'expression de son genre, parce que pas à l'aise par rapport justement à ces stéréotypes. Un garçon, ça doit agir comme ci, ça doit être comme ça.
Ça doit mettre un pantalon, des baskets.
Oui, voilà.
Voilà, soyons concrets. Ça doit aimer se bagarrer, ça doit...
Jouer aux voitures, le foot...
Donc du coup, c'est vrai qu'on peut ne pas se sentir à l'aise par rapport à tout ça aussi. Donc ça crée un peu un flou où on se dit mais pourquoi est-ce que en tant que garçon je devrais être comme ça ou voilà etc. C'est il y a aussi un problème qui est sociétaire quelque part de choses qu'on nous impose un peu par exemple et du coup c'est vrai que c'est difficilement explicable puisque même nous on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on ressent ça.
Moi on m'a souvent posé la question.
Après, au fil du temps, quand on ressent ça, on essaye de comprendre pourquoi. Et au bout d'un moment, on se dit, bon ben voilà, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?
Alors là, concrètement...
Parce qu'il faut savoir qu'on va très mal, justement, par rapport à cette, ce qu'on appelle dysphorie de genre. C'est-à-dire que la dysphorie, ça veut dire qu'on n'est pas bien avec son corps, qu'on n'est pas bien, il y a un mal-être, oui, voilà. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on arrête d'essayer de se demander pourquoi c'est comme ça. Et on fait, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ? Et pour aller mieux, eh ben, y a un outil très efficace, c'est la transition, voilà, qui nous permet de pouvoir exister dans l'identité qui nous convient par le fait de pouvoir changer de sexe, si on peut dire comme ça un
de
peu
genre,
simplement,
de genre.
Changer de genre. Oui,
parce
voilà.
qu'il y a des personnes trans qui ne vont pas jusqu'à l'opération du changement de sexe, donc
oui,
c'est
voilà.
le genre.
Alors après, il faut aussi connaître voilà, un
c'est
peu au niveau transgenre, il y a tout un panel de... Voilà, il y a les personnes dites binaires, donc c'est-à-dire sur le principe homme-femme, voilà. Donc, c'est-à-dire on va passer d'un sexe à l'autre sans trop se poser de questions avec les avantages, les inconvénients, etc., les contraintes sociales et tout. Et il y a les non-binaires, donc forcément, qui, quelque part, sont un peu dans une déconstruction du genre, finalement. De dire pourquoi est-ce qu'en tant que garçon, j'aurais pas le droit de porter une jupe ? Pourquoi est-ce qu'en tant que fille, je pourrais pas être comme ci, je pourrais pas être comme ça ? Et donc, qui déconstruisent un petit peu les normes de genre qui sont existantes, finalement.
Oui, voilà. Du coup, c'est encore un autre niveau de militantisme. Alors, Clémentine a sorti du Doliprane. On va faire une petite pause.
Non, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué.
Oui. C'est très complexe.
Oui, c'est...
Mais on va arriver dans le concret pour que les gens comprennent que changer d'identité sexuelle ou de genre, c'est pas quelque chose qui peut être juste suite à un effet de mode.
C'est pas anodin.
Qu'on ne choisit
non.
pas, c'est pas anodin.
Et voilà. Si on devait choisir... Croyez-moi, on aurait fait l'autre choix. Ça a été beaucoup plus simple.
Dünya için de dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya için de.
17h40 sur les ondes du Mix des Cultures. Vous êtes bien dans le Blabla Mix. On était accompagné du groove ottoman du groupe Waltin Goon avec le titre Goka Dunia. Et dans quelques secondes, nous allons retrouver Awa et son Blabla Mix avec ses invités d'SOS Homophobie.
Soul Connection, la black musique des années 60 et 70. Deux heures de plaisir toutes les semaines à déguster en trois étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk, en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, dance floor soul connection, disco, funk, classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux. Et en podcast sur principeactif.net.
Les années jazz, c'est le rendez-vous jazzy de tous les samedis dès 18h sur Radio HDR. Présenté par Michel Jules, venez découvrir avec nous les jazzmen des années 70 et les événements rouennais autour du jazz. Les années jazz sur HDR, c'est chaque samedi à 18h. Rediffusé le mercredi à 19h, 99.1 FM. Retrouvez toutes les émissions sur radiohdr.net.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Et oui, vous êtes de retour, nous sommes de retour à 17h42 dans le Blabla Mix avec Clémentine, Juliette et Stéphanie. Et puis nous avons aussi Inès qui est rentrée dans le rapport d'SOS Homophobie, qui est intriguée. Alors voilà, pour les auditeurs qui, comme Clémentine, ont pris un Doliprane, ce qui
ressort... Non, c'est pas moi, c'est Inès.
Ce qui ressort là maintenant, c'est qu'on a... Il y a une histoire et un problème d'étiquette. Avec tous les termes, voilà, moi j'ai, donc on a biphobie. Donc biphobie, c'est les gens qui ont peur des personnes bisexuelles. Mm-hmm. Vous me dites si c'est bon ou si c'est pas bon. Gayphobie, homophobie, on est toujours bon. LGBTphobie, lesbophobie, transphobie. Pourquoi est-ce qu'on met des étiquettes et des termes, on redivise encore les personnes avec chacun de ces termes ? C'est ça quelque chose qui m'intrigue.
En fait, la société fait que on a l'habitude. Enfin, pour il y a beaucoup de personnes pour qui deux personnes normales, c'est comme ce que disait tout à l'heure Stéphanie, c'est un homme, du coup viril, c'est le père de famille, voilà, il doit faire du foot, et c'est la femme, la mère de maison, voilà, ça très féminine, ça reste toujours ces deux étiquettes
les
qui sont
clichés.
Représentées. Voilà, les vrais clichés, quoi. Et du coup, le problème, c'est que dans la société, les personnes quand on sort de ces cases. Ils ont besoin de mettre une étiquette, en fait, sur nous. Donc, par exemple, Clémentine, comme elle disait tout à l'heure, va être présentée, va être appelée comme...
La trans.
Voilà,
ouais,
la trans.
Alors, dans mon travail, lorsque je commence une mission, j'ai ma responsable qui appelle le chef de poste pour dire « Attention, tu vas avoir une trans avec toi.
» Alors, est-ce que trans, c'est une insulte ?
Non, c'est l'abréviation de transgenre.
Alors, on a transgenre... Et non transsexuel.
Ah, quelle horreur. Coupez-moi ça.
Pourquoi ? Non, mais expliquez-nous.
Non... Transsexuel, c'est un mot psychiatrique, donc qu'on n'utilise plus. Seuls les vieux médecins fous psychiatres l'utilisent avec la fin de la dépsychiatrisation. Voilà. Donc on est passé au terme transgenre, qui, je trouve, c'est mieux parce que transsexuel, ça touche il y a le mot sexuel dedans, ça touche vraiment la sexualité. Et nous, en tant que transgenre, c'est le genre. Même si certaines personnes, on va aller jusqu'à l'opération du sexe, la réassignation sexuelle, il y a d'autres personnes trans qui ne vont pas aller jusqu'à cette dite opération. Donc pour ça, transgenre, c'est vraiment le genre.
Bien. Alors vous militez, et dans le cadre de ces actions militantes, j'avais envie qu'on développe davantage sur l'histoire de transition, mais on n'aura pas le temps. C'est quelque chose de très complexe.
Non, mais moi j'ai le temps.
On finit à 18h.
Ah, mais après je peux. Je sais pas.
Oui, mais on pourra peut-être pas le partager avec les auditeurs, c'est ça qui est dommage.
On reviendra une autre fois.
Voilà, on va faire comme ça. Et donc, dans le cadre des actions militantes, vous mettez... Il y a des actions. Donc, il y a la prévention en milieu scolaire et il y a aussi des soirées ciné-débat.
Tout à fait. Ça. Donc, à savoir, la délégation Haute-Normandie a été reprise il y a à peu près un an. Avant, elle était, on va dire, morte. Elle dormait. Nos co-délégués ont réussi à remonter cette délégation. Stéphanie a lancé les ciné-débats avec un
ciné-débat sur le campus de Mont-Saint-Aignan.
Voilà, donc c'était avec le film Mon corps n'est pas mon genre, c'est ça ?
Fille ou garçon, sexe n'est pas mon genre.
C'est ça, voilà. Ouais. Donc il y a projection du film, après un petit débat entre les personnes, le public et les personnes de l'association présente. Dans le cadre du festival Cinéfrien de Rouen, nous avions présenté le film Coming Out de Denis Parot, qui était en avant-première. Suite à ça, nous avons fait un autre ciné-débat sur ce film Coming Out, là, à Évreux, qui s'était bien passé. Et actuellement, on organise pour le 19 septembre au cinéma Le Paris, à Côte-Bec-en-Caux, à 20h30, un ciné-débat où le réalisateur sera présent également. Donc, présentation du film, 63 minutes, et ensuite un débat qui dure...
Donc jeudi 19 septembre 2019, cinéma Le Paris à Côte-Bec-en-Caux. Comment on fait pour venir ? Est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce qu'il faut vous appeler ? Est-ce qu'il faut faire partie de la LGBT+ ou des SOS homophobes ?
Non, ça s'adresse à tout public. Voilà, c'est justement aussi pour pouvoir informer. L'avantage du ciné-débat, c'est que on va toucher les personnes qui vont avoir une certaine curiosité déjà pour venir. Et quelque part, où on va pouvoir parler déjà du coming out, là, dans le cas présent. Qui donc c'est marqué, nom masculin invariable, contraction de l'expression coming out of the closet, qui veut dire sortir du placard. C'est-à-dire, on s'ouvre, on dit je suis homo, je suis trans, je suis lesbienne, voilà.
Même si ça regarde que nous.
Même si, voilà.
C'est ça. Est-ce que finalement on est obligé de parler de sa sexualité ?
Alors, je vais parler pour mon cas. J'ai vécu 10 ans en sachant que j'étais une femme. Donc c'était dépression sur dépression, tout ça, je vivais mal, j'étais, si je suis là aujourd'hui, je le dois à mon copain d'enfance du CP, 10 minutes près, je n'étais plus là, il ne serait pas venu, j'aurais fait un acte qu'il ne faut pas, et il est venu, on a pris un café, et il me pose la question, ça va, je dis oui, ça va, et au bout d'un moment, il me dit non, je te connais, ça ne va pas. Et c'est là, c'était le premier à qui je lui ai dit, et il m'a dit texto, t'es con, si t'es une femme, vis ta vie de femme. Quoi. Puis j'ai dit oui, effectivement, t'as raison. Puis bon, après, j'ai fait différents coming out auprès de mon ex-femme, des amis, etc.
Voilà, après, c'est vrai que l'importance de faire un coming out, ça peut sembler un peu désuet de parler de sa sexualité, mais par rapport à sa famille, ou socialement, même par rapport à son travail, etc., je veux dire, forcément, à sa famille, on ne va pas leur présenter sa copine ou son copain. On va leur présenter donc...
un ami.
Pour une personne gay, on va leur présenter son copain. Donc forcément, le coming out, quelque part, il est un petit peu nécessaire pour dire, voilà. C'est comme, par exemple, si on a son travail, les gens vont voir que c'est toujours le copain qui vient chercher ou... Voilà, etc. Au bout d'un moment, ça va se savoir. Donc quelque part, on devance un petit peu le « Oh, il serait pas gay, celui-là » en l'affichant, quelque part, d'une certaine manière. Le coming out trans, quelque part, on le fait...
On est obligé, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement physique qui va s'opérer. Tandis qu'une personne gay ou lesbienne, ça ne va pas se voir, il n'y aura pas de changement. Nous, il y a un changement physique qui va s'opérer.
Donc, quelque part, le coming out se fait de lui-même à partir du moment où on décide de suivre un parcours de transition. Donc ça fait que c'est un peu nécessaire par rapport à la vie sociale finalement pour, on va dire entre guillemets, avertir les gens pour leur dire je suis comme ça, est-ce que ça ne te dérange pas ? Justement à cause de cette discrimination, de cet a priori qu'il y a, peut-être qu'on se sent obligé justement de prévenir, de dire attention... je vais te dire un truc comme un secret, quoi, quelque part, voilà. Pour ça qu'on utilise ce terme, justement, de sortir du placard un petit peu, d'étaler, de mettre au grand jour quelque chose, quoi, finalement. Parce que c'est vrai que vivre caché, c'est une vie pour personne. On n'a pas envie de vivre dans le secret ou dans l'interdit, quoi, finalement.
Donc c'est aussi quelque chose qui va soulager. Juliette, vous êtes d'accord ?
Je suis totalement d'accord, mais moi, je sais très bien. Donc moi, je ne suis pas trans et je sais que...
Ah bon ?
Non, mais je sais que moi, je l'ai fait... Parce que je me sentais obligée, mais c'est-à-dire que si je ne le faisais pas, toute ma vie, en fait, j'aurais entendu quand est-ce qu'on rencontre ton copain ? Ou toujours des petits trucs comme ça. Et au quotidien, en fait, ça prend la tête parce que du coup, les personnes attendent des choses de nous que jamais on pourra leur donner. Et en fait, on se dit, ben, c'est peut-être parce que je suis pas normale, et ça nous renfonne dans l'idée qu'on n'est pas normal. Donc en fait, sortir du placard, entre guillemets, donc faire son coming out, bah, ça permet de s'assumer tel qu'on est, et qu'au final, de voir les gens déjà qui sont pour nous, qui nous soutiennent. Donc ça permet de faire un tri dans les personnes qui sont contre nous.
Et il se fait automatiquement le tri de toute façon.
Oui, il se fait automatiquement.
Ils s'en vont.
Mais c'est aussi de se dire, bah, maintenant, moi je sais très bien qu'avec mes copains et mes copines que je connais depuis que je suis en maternelle, bah, en fait, je vois qu'elles m'ont accepté telle que je suis. Et au contraire, maintenant, j'ai l'impression d'avoir une relation totalement normale avec elles et j'ai pas l'impression de leur cacher quelque chose. Alors que j'aurais toujours tout dit, en fait.
Il y a aussi une différence. Ah, excusez-moi, hein, mais on n'est pas de la même génération. Juliette, une vingtaine d'années.
40 ans.
Vous, 40. Et donc, c'est quand même différent. On a une autre personne qui est jeune. Je me rapproche pas assez du micro, pardon.
Oui, c'est moi.
Et donc, on a Inès qui avait une question à poser.
Oui, j'avais une petite question. Alors, du coup, comme on vient de regarder pour le film Coming Out, est-ce que vous pensez que les arts, le cinéma, la peinture et la littérature peuvent être aussi un moyen de prévention sur ces questions-là?
Oui, oui. Moi je vous répondrais simplement, déjà rien que pour le film, venez le voir parce que c'est un film, Denis a, Parot, le réalisateur, a choisi parmi 1200 vidéos vues sur YouTube différents coming out, alors que ce soit lesbien, gay, bi, trans, et on passe vraiment du rire aux larmes. Et non, je pense que des actions comme ça, cinématographiques ou culturelles, peinture, etc., oui, ça, c'est positif, enfin, mon point de vue.
Bah, on remarque bien enfin, aussi la différence des générations. Moi, dans ma génération, quand j'étais petite, bah, j'avais Buffy contre les vampires à la télé, où il y avait une lesbienne, il y avait pas mal de représentations, en fait, au cinéma, dans les séries, bah, en fait, de personnes homosexuelles ou trans. Et en fait, ça nous conforte dans l'idée que nous, on est normal. Et c'est, je trouve ça essentiel, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Bah, ça permet d'éduquer, en fait, de montrer que c'est normal et que si c'est au cinéma, dans les arts, bah, ça veut dire que nous, si on l'est, c'est... Enfin voilà, c'est totalement normal.
C'est ça.
Il y a pas de... qu'on n'est pas différent des autres.
Nous sommes normaux, on a deux jambes, deux bras, une tête, un corps, on est comme tout le monde.
Voilà.
Vous êtes des êtres humains, quoi.
C'est ça.
Voilà, oui.
Malheureusement, il faut encore le rappeler. Donc, pour vous rencontrer, comment fait-on? Parce que là, je vois qu'il y a la ligne d'écoute. Donc, je rappelle la ligne d'écoute anonyme pour toutes les personnes qui ont besoin de se confier et ou de relater des agressions. Donc, c'est le 01 48 06 42 41. Est-ce qu'on peut aussi vous retrouver
sur Facebook?
Sur Facebook.
SOS Homophobie Délégation Normandie.
Voilà, et vous aurez nos deux charmants co-délégués qui vous répondront avec plaisir.
Et très prochainement, on aura des locaux sûrement qui permettront aux gens
de venir
à des permanences et puis de pouvoir être aussi entendus. Voilà, on y travaille. Voilà.
Il y a aussi le site national www.sos-, alors c'est celui du milieu, je ne sais pas si c'est le 4 ou le 6, homophobie.org, d'accord, www.sos-homophobie.org, où là on peut retrouver toutes vos actions. Pour les responsables d'établissements, d'associations, de centres culturels qui auraient besoin, envie de vous faire intervenir pour de la prévention, de la discussion, et aussi de l'éducation à la sexualité, parce que moi, j'ai sous vos yeux, et aussi des luttes contre les discriminations, puisque moi, j'ai sous vos yeux le fascicule qui est remis aux jeunes, et les principaux critères sur lesquels se fondent de nombreuses discriminations. Il est bien rappelé qu'il y a le sexe, la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, la religion, l'âge, l'état de santé, l'apparence physique. Donc évidemment, tous ces sujets-là sont aussi abordés. Vous ne parlez pas uniquement de sexualité d'homosexualité.
On lutte contre toutes les formes de discrimination, en fait. Voilà, on essaie de sensibiliser sur, justement, l'acceptation de la différence, quoi, finalement.
Et quelle différence, c'est ça?
J'ai jamais
trouvé de différence.
Alors là, on pourra faire un débat. Un sujet.
Moi, je veux bien.
J'ai bien compris, mais Clémentine, on va se retrouver très rapidement sur les ondes. Alors, il est 17h55. Est-ce qu'on fait une petite pause jingle avant de faire un petit tour éventuellement?
Ah, sinon, j'avais une dernière chanson, très courte, 2 minutes. Hein, ça ira bien quand
même. C'est super, 2 minutes.
On va s'écouter encore une autre prise. Le titre Angela, très connu avec le Sayan Supakru, interprété cette fois-ci par Mathieu Bougartz.
Ah.
pas ça qui j'en moins aimé. Les hookas dit moins ou excité, qui en moins capette cadence. Les hookas allongés, quoi en les mains jusqu'à des mains. Les sentiers pour voir le satin, c'est un ukulélé demain matin. Il écho, je mets le turbo. J'adore quand tu me dis le Roy, c'est toi le plus beau. T'es celui que je préfère, me fait grimper au rideau. N'importe quelle heure, n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les oeufs. On sait qu'avec toi, on passera des moments chauds. À chaque fois que t'es seul, fais mon numéro. Toi-même, tu sais qu'une fois de plus, ça sera chaud. Chaud, Angela, moins qu'est fond de joie. Pendant papa, pas là, Angela. Chichi, trop de 1-1. Angela me a peur du 1-1. Contraint, je suis contraint. C'est par contrat moral qu'elle se retrouve contraint. Noir à lunettes, vie selou. Homme de zouzou comme de soucousse. Malhonnête ce coup-ci. Oui, j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Les coup-ci, coup-ça, mais je mettrai un coup à ça.
Angela, moins qu'est franchoir. Pendant papa ou pas là. Angela, Angela, moins qu'est franchoir.
Mathieu Bogers avec le titre Angela, et c'est quasiment la fin de cette émission, n'est-ce pas, Awa?
Eh oui, c'est non. Déjà la fin de non. Cette émission. On Clémentine
prolonge.
Va dormir dans les studios.
On
mais donc c'est le moment, Alain, de nous parler de votre actualité. Qui commence?
Stéphane. Stéphanie.
Non,
je vais commencer.
Stéphanie, présidente. Allez, on y va parce que ça va bientôt
alors,
couper une reste de minutes.
Septembre à 20h30 au cinéma Le Paris à Côte-Bec-en-Caux, ciné débat du film Coming Out avec la présence exceptionnelle de Denis Parot, le réalisateur, qui sera parmi nous. Ensuite, Stéphanie.
Donc c'est moi, je prépare l'été d'or. C'est pour le mois de novembre. Donc c'est la journée du souvenir trans, voilà, où on commémore toutes les personnes trans assassinées à travers le monde. C'est une journée internationale. Donc c'est en préparation avec la commune de Rouen pour que la commémoration se fasse sur Rouen et qu'on puisse commémorer les personnes trans, à savoir qu'à Rouen on a eu 2 assassinats de personnes trans entre 2012 et cette année. Voilà.
Juliette.
Et du coup, moi je vais vous parler, on va organiser un petit événement en octobre. Donc on n'a pas encore la date définitive, mais elle va bientôt sortir sur la page Facebook de SOS Homophobie Délégation Normandie. Et c'est pour se retrouver du coup entre les membres de SOS Homophobie, mais également les nouveaux. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour être adhérents ou militants chez nous.
Est-ce qu'il faut nécessairement être homosexuel ou LGBT pour intégrer votre association?
Ça vous intéresse de venir avec nous?
Non,
c'est
pas du tout.
C'est quoi la réponse?
Bah,
pourquoi pas? Je me demande, est-ce que c'est ouvert à
tout le monde
et à toutes?
Peut,
par exemple,
LGBT-phobie.
Le co-délégué voilà. Frédéric, du coup.
C'est un pur hétéro.
C'est un pur hétéro.
Pur.
Chères auditrices, chers auditeurs du 99.1 dans l'agglomération rouennaise, chers collègues de Principe Actif sur le 102.4, c'est bientôt terminé, il nous reste 20 secondes. Je serai de nouveau avec vous demain et nous inviterons une autre association. Cette fois, c'est le CAPS pour de la formation. On vous remercie pour votre présence. Au revoir, chers invités.
Moi, j'en viens demain.
D'accord, alors à demain.
Au revoir,
au revoir Nicolas, au revoir
merci
tout le monde.
Tous.